n'est pas bien. Paisible, à la fraîche, décontracté du gland.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça.
Merci pour la bonne nouvelle.
Principe Actif, le mix des cultures.
Il n'a pas réglé son horloge, toujours le cul entre deux chaises. Il ne sait jamais où il loge, il a 30 ans. D'âge mental 16, mon papa, mon père, celui que je n'ai pas beaucoup connu, celui qui est arrivé hier, qui part demain, bien entendu. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard, tu comprendras. En attendant, chante ta colère. Il n'a pas choisi sa planète, pas choisi entre terre et lune. Il n'a pas remboursé ses dettes et n'a jamais, jamais fait fortune. Mon papa, mon père, celui...
7h à Paris, 5h en temps universel. RFI Matin commence. Bonjour à vous. On va rester ensemble jusqu'à 10h avec aujourd'hui la guerre au Moyen-Orient au cœur de nos programmes, mais aussi ce rapport de Human Rights Watch publié aujourd'hui qui recense plus de 1800 civils tués entre 2023 et 2025 au Burkina Faso, des faits de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, écrit l'ONG. On y revient très largement ce matin, notamment avec notre invité dans 30 minutes, Ilaria Allegrosi, co-autrice de ce rapport. Restez avec nous. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Drane Mellard, bonjour à toutes et à tous.
Dans votre journal, Martin, avant toute chose, un petit pas pour l'homme, mais un grand bond dans la Voie lactée. Artemis 2 est en route vers la Lune.
Un long voyage de 10 jours et de plus de 400 000 km que l'humanité n'avait plus effectué depuis 1972. Trois astronautes américains et un canadien ont décollé cette nuit pour un tour de la Lune sans y poser le pied. Un premier lancement depuis un demi-siècle déjà historique que nous raconte Stéphanie Schuller dans un instant. Un décollage qui a suivi du coin de l'œil Donald Trump avant son allocution à la nation américaine. Le président des États-Unis a voulu rassurer ses concitoyens. Il a répété que l'Iran serait frappé extrêmement durement pendant encore 2 à 3 semaines. Donald Trump, à qui Emmanuel Macron a répondu via médias interposés lors d'une interview à la chaîne publique japonaise NHK. Nous serons aussi dans ce journal de nouveau ce matin en Libye pour le deuxième volet de notre enquête sur la présence d'officiers ukrainiens dans l'ouest du pays. Et puis enfin, au cinéma, en fin de journal pour The Drama, le film à voir cette semaine. Enfin, sauf pour les jeunes couples qui idéalisent le mariage, vous l'entendrez.
Les premiers cinéastes rêvaient d'un voyage dans la Lune il y a plus d'un siècle. Un film désormais bien réel qui se joue en ce moment sous nos yeux.
Georges Méliès qui réalisait Le Voyage dans la Lune dès 1902 sur grand écran. Un vœu exaucé dans les années 60 et 70 par l'émission Apollo, mais il n'y avait plus eu d'épisode 2. Depuis 54 ans, après un demi-siècle à bouder la Lune, l'humanité en reprend le chemin grâce à Artemis 2, Artemis du nom de la déesse grecque de la chasse. Quatre chasseurs d'étoiles se sont envolés vers la Lune depuis la Floride. Un voyage de 10 jours autour de l'astre lors de cette mission de la NASA. Un lancement historique malgré quelques grains de sable, comme nous le raconte Stéphanie Schuller.
Après un déroulement quasi parfait de toutes les étapes pré-lancement, deux anomalies, une heure avant le décollage, font monter la tension. Mais les équipes de la NASA parviennent à gérer les problèmes. La directrice du lancement, Charlie Blackwell-Thompson, donne l'autorisation de décoller et s'adresse aux quatre astronautes dans leur vaisseau spatial.
Reed, Victor, Christina et Jérémy, sur cette mission historique, vous emportez avec vous le cœur de l'équipe Artemis, l'audace du peuple américain et de nos partenaires à travers le monde, ainsi que les espoirs et les rêves d'une nouvelle génération. Bonne chance, bon voyage Artemis 2.
Godspeed Artemis 2.
C'est parti.
Let's go.
8, 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off.
La plus puissante fusée jamais construite s'élève du pas de tir 39B du Kennedy Space Center. Tout doucement d'abord, comme si elle avait du mal à quitter le sol, puis de plus en plus vite, elle monte dans le ciel. Le vaisseau, l'équipage l'a baptisé Integrity. Il atteint l'orbite terrestre, un sans faute.
Les quatre astronautes qui devraient battre le record de l'équipage s'étant le plus éloigné de la Terre, et s'il n'y a pas d'alunissage prévu, ce voyage préliminaire en appelle d'autres, avec cette fois un stop sur la Lune, espéré d'ici 2028.
être astronaute félicité par Donald Trump lui-même.
Le président américain qui a même débuté son adresse à la nation par ces mots, avant d'enchaîner pour 20 minutes d'un discours sobre, sans digression, ni grande annonce. Donald Trump qui a tenté de rassurer les Américains, en majorité mécontents de l'opération militaire des États-Unis en Iran et de la flambée du prix de l'essence. Le président américain qui a répété depuis la Maison-Blanche que les opérations seraient terminées d'ici 2 à 3 semaines, ajoutant que si les discussions en cours avec les dirigeants iraniens n'étaient pas concluantes, ils frapperaient chacune de leurs centrales électriques très durement et probablement simultanément.
Nous sommes sur le point d'atteindre l'ensemble de nos objectifs militaires. Ce sera fait très bientôt. Nous allons les frapper de manière très brutale pendant les 2 à 3 semaines qui viennent. Nous allons les ramener au Moyen-Âge. En parallèle, des discussions sont en cours. Le changement de régime ne faisait pas partie de nos objectifs. Nous n'en avons jamais parlé, mais il s'est produit parce que leurs dirigeants historiques ont été tués. Leurs nouveaux dirigeants sont moins radicaux et plus raisonnable, mais si au cours de la période à venir aucun accord n'est trouvé, nous allons frapper très fort et sans doute simultanément chacune de leurs centrales électriques.
Donald Trump qui a aussi invité les pays qui souffrent du blocage du détroit d'Ormuz à s'en occuper eux-mêmes. Il a promis par ailleurs de ne pas abandonner ses alliés du Golfe. Une allocution ponctuée au Moyen-Orient par une salve de missiles tirés par l'Iran vers Israël. Aucune victime ni dégâts n'ont pour l'heure été signalés. Les Émirats Arabes Unis ont aussi été visés par des attaques de missiles et de drones, alors que la veille, un Bangladais a été tué par des débris de drones interceptés dans le détroit d'Ormuz.
Donald Trump était face aux Américains et Emmanuel Macron devant les Japonais.
Durant son voyage à Tokyo, le président français a accordé une interview à la chaîne de télévision publique NHK. Il a tenu à marquer sa différence avec le chef d'État américain, affichant notamment ses divergences sur le conflit en cours au Moyen-Orient. Valérie Gasse.
Cette interview donne d'abord la possibilité à Emmanuel Macron de répondre aux récentes attaques de Donald Trump, qu'il accuse de ne pas coopérer dans la guerre contre l'Iran.
C'est tout à fait vrai que la France, qui n'a pas été consultée et qui ne fait pas partie de cette offensive militaire lancée par les États-Unis et Israël, n'y prend pas part. Mais il n'y a rien de nouveau. C'est vrai depuis le premier jour.
Et le chef de l'État insiste, pas question de se laisser imposer les règles du jeu.
Nous sommes prêts à jouer notre rôle jusqu'au bout, mais nous ne le ferons pas dans un cadre qui n'est pas le nôtre. Nos pays, avec plusieurs autres pays d'ailleurs, d'Asie, du Proche Moyen-Orient ou d'Europe, peuvent jouer un rôle qui consiste à s'assurer que le transit se fait bien à travers Hormuz. C'est pas du tout une option militaire. Nous pouvons le faire parce que nous ne sommes justement pas partie prenante.
Emmanuel Macron manifeste clairement son désaccord sur la méthode Trump.
Je pense que tout ce qui va dans le sens de l'unilatéralisme, de la brutalisation du monde, peut-être satisfaire à court terme, mais règle assez rarement les sujets dans la durée.
Et il en tire une conclusion.
Et rien ne serait pire que d'avoir bombardé la région pendant des semaines et des semaines et de la quitter sans qu'un cadre soit à nouveau établi.
Emmanuel Macron pointe le risque d'échec de la guerre contre l'Iran. Valérie Gasse, Tokyo, RFI.
Emmanuel Macron reçu par ailleurs par le couple impérial japonais et qui arrive ce jeudi en Corée du Sud pour la première visite d'un président français dans le pays depuis 2015.
Les bourses asiatiques, Martin, ont elles plongé ce matin.
Après le discours de Donald Trump qui n'a pas réussi non plus à rassurer le marché de l'énergie. Le prix du baril du pétrole repart à la hausse. Il a grimpé de 5% ce jeudi, repassant au-dessus des $105 pour le cours du Brent. L'envolée des prix à la pompe qui se constate partout sur la planète. Illustration ce matin à Bethléem, en Cisjordanie, où là aussi les files d'attente s'allongent et les prix explosent. Reportage Frédéric Nisla.
Dans toutes les stations-service de Bethléem, le scénario est le même, de longues files de voitures patientes. Rafat est fataliste derrière son volant.
C'est la guerre et c'est comme ça partout dans le monde. La crise est là. Cela fait plus de 15 minutes que j'attends.
L'approvisionnement en essence des territoires palestiniens passe par Israël et aujourd'hui, la quantité n'est pas au rendez-vous, assure le pompiste.
Il y a moins de carburant. Avant la guerre, on commandait 5000 litres à chaque livraison. Aujourd'hui, nous avons reçu 2000 litres, la moitié.
Le propriétaire de la station rationne pour que tout le monde soit servi. Certains viennent avec des jerrycans. Mahmoud, lui, explique qu'il n'aurait pas pu faire un plein car les prix sont astronomiques.
Aujourd'hui, le litre a augmenté de 2 shekels. Cela signifie que pour faire le plein de ma voiture, pour 100 litres d'essence, ça me coûte 850 shekels, 235 euros.
Une hausse de près de 15% depuis le début du mois, constatée en Israël et en Cisjordanie occupée. Frédéric Misselin, Bethléem, RFI.
Et on reparle pétrole et prix à la pompe dans un peu plus d'une heure avec Otto Valiant Frias, ambassadeur de Cuba en France. Il sera le grand invité d'Arnaud Pontus.
RFI 7h09 à Tripoli et Benghazi lors du deuxième volet de notre série.
Consacré à la présence ukrainienne dans l'ouest de la Libye, révélation de notre enquête RFI. La Libye, terrain de la guerre aussi, entre l'Ukraine et la Russie, à plus de 2000 km du front. Des officiers ukrainiens sont notamment présents à Misrata et Melita, non loin de Tripoli. Deux bases pour l'Ukraine, notamment pour viser des vaisseaux de la flotte fantôme russe en Méditerranée à l'aide de drones navals, Ouda Ibrahim.
Quand les experts militaires examinent les données du terrain en ce qui concerne l'Arctique Metagaz, le méthanier russe touché le 4 mars dernier au large de Tripoli, alors qu'il naviguait entre Malte et la Libye à près de 100 km de la côte libyenne, tout leur indique qu'il a été touché par un drone. Selon nos sources libyennes, l'Arctique Metagaz a été visé par un drone naval autonome du genre Magura V5, fabriqué par l'Ukraine et déjà utilisé en mer Noire. Ce drone a été lancé depuis la base de Melita, à l'ouest de Tripoli, où se trouvent les militaires ukrainiens. L'incident du 4 mars dernier n'est pas le seul intervenu en mer. Déjà, le 19 décembre 2025, l'Ukraine a annoncé avoir frappé un pétrolier de la flotte fantôme russe dans les eaux neutres de la Méditerranée, une première dans cette zone. Le communiqué ukrainien ne donne aucun détail sur le lieu à partir duquel la frappe a été déclenchée, ni sur le pays à l'origine du tir. Le pétrolier russe naviguait entre la Grèce et la Libye à 250 km des côtes libyennes quand il a été visé. Selon nos informations, il a été attaqué par un drone depuis la ville de Misrata.
Explication signée Ouda Ibrahim du service Afrique de RFI.
En France, l'extrême droite reprend sa croisade contre l'Union européenne.
Et certains nouveaux maires, étiquette Rassemblement National, se sont empressés de retirer le drapeau européen de leur mairie en signe de protestation, comme à Carcassonne par exemple. Et pourtant le parti ne défend plus une sortie de l'Union européenne, mais reprend sa charge contre les 27. Un discours hostile porté notamment par Marine Le Pen, Raphaël Delvolvé.
Sur un salon dédié à l'industrie près de Paris ce mercredi, Marine Le Pen avait comme bien souvent le gouvernement, mais aussi l'Union européenne dans son viseur, que ce soit pour justifier la crise industrielle française.
La multiplication des normes, des taxes, c'est ça qui est en train de tuer l'industrie. Et ça, ça a été mis en œuvre par l'Union européenne.
Celle des finances publiques.
Il y a une gabegie dans notre pays qui est absolument insensée. On vient d'augmenter de 6 milliards la contribution à l'Union européenne. 6 milliards.
Ou plus largement la crise économique.
Il faut mettre fin à cette machine folle qui devient encore une fois un inconvénient, un boulet pour l'ensemble de notre économie.
L'Europe, source de malheur à l'entendre. Mais pour autant, Marine Le Pen ne va pas jusqu'à en faire un thème de la prochaine campagne présidentielle.
C'est aujourd'hui le pouvoir d'achat, l'énergie, l'immigration et l'insécurité.
Jean-Philippe Tanguy, député et monsieur économie au RN, tempère aussi.
Et les Français n'ont pas d'hostilité à l'Europe, ils en ont juste ras-le-bol de la technocratie von der Leyen. Ils veulent une Europe à leur service et pas une Europe qui leur fait les poches.
Est-ce une façon d'avouer que l'anti-européisme n'est pas forcément porteur électoralement ? Façon peut-être aussi de mettre un peu d'eau dans son vin après le retrait des drapeaux européens sur les mairies.
Je reste dans mon lit douillet.
les manchots, cela va de soi.
Mis dans le même plat, c'est elle qui termine. Elle a le don de clôturer le
balle est envoyée dans une grosse berline. Certains l'attendent de pied ferme, d'autres doutent qu'elle passe. Personne peut y échapper, même si t'as trafiqué le pass. Sert à rien de zigzaguer si elle te vise la tête. T'es condamné à te faire chicler classe. Ouais, on marche tant qu'on a encore des rêves, tant que nos torches éclairent. Moi je te le dis qu'on marche, on marche et chacun porte ses peines. Mais à l'édifice apporte ses pierres. Moi je te le dis qu'on marche tant qu'on sent pas que dans le corps c'est dead. Avant que nos forces éteignent. Moi je te le dis qu'on marche, on marche, on est des hommes et merde. On avance vers une mort certaine. On dit d'elle qu'elle ne se dévoile pas, qu'elle est plutôt pudique. Elle ne parle pas sur ses projets, jamais elle se montre en public. Elle aime être discrète, mais qu'elle est franche, elle met pas de disquette. En dehors de son taf, tout le reste pour elle est futile. Elle nous a tous pour clients, ouais, elle fait même des tarifs de groupe. Elle fait pas de sentiments, elle a libre cours. Mieux vaut être loin avant qu'elle pète les barils de poudre. Eh, gousse, certains la kiffent, d'autres ont du dégoût. Avant de passer, elle n'indique pas l'ombre d'une piste et se moque de tes bonnes ou tes mauvaises actions. Elle s'invite par surprise et son travail est sujet à de nombreuses observations. Pour elle c'est toujours l'heure du crime, en plus l'homme avance en creusant sa tombe. On avance avec la peur du vide, je vous le demande, on marche mais où va-t-on? Ouais, on marche tant qu'on a encore des rêves, tant que nos torches éclairent. Ouais, je te le dis qu'on marche, on marche et chacun porte ses peines. Mais à l'édifice apporte ses pierres. Ouais, je te le dis qu'on marche tant qu'on sent pas que dans le corps c'est dead. Avant que nos forces éteignent. Ouais, je te le dis qu'on marche, on marche, on est des hommes et merde. On avance vers une mort certaine.
Évreux.
Sur le DAB+.
Sur le DAB+.
A lábam megporol.